stories.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Des livres pour dire. L'émission de ce soir a été préparée par le collectif Démasqué et accompagnée par Geneviève du collectif de la diversité à la créativité. Alors on s'attache à une nouvelle rubrique dans notre émission, c'est une rubrique à tort et à travers, et vous allez découvrir de quoi il s'agit tout de suite.
Ce sera vraiment une émission sur ces questions-là de formatage, du langage, de détournement de mots, de mode, donc un petit peu la question de la pensée unique aussi.
Pour des raisons de disponibilité, l'émission a été enregistrée à différents moments et ensuite montée. Vous avez déjà entendu deux espaces, deux énergies différentes, et il y en aura trois au total, sans compter les chansons qu'on passera pendant l'émission. Alors voilà, bonne écoute.
Tort et à travers.
Aujourd'hui, analyse chirurgicale du mot résilience par le collectif Démasqué. J'y vais avec cette première question, Amanda. Pourquoi le mot résilience?
Alors, ce mot apparaît dans notre dernier recueil, plus précisément dans mon texte. Le mot résilience figure parmi un éventail de concepts dont la signification change. À mon avis, elle change ou elle gagne des sens par rapport au contexte et l'émetteur du discours. Dans mon texte, ce mot, il apparaît un peu comme dans le sens d'adaptation, mais je vais discuter un peu plus tout de suite après Isabelle.
Oui, c'est aussi un mot qui est mis au pilori par Thierry Ribaud. Thierry Ribaud, c'est un économiste et un chercheur français qui est auteur de l'ouvrage « Contre la résilience » et qui l'a édité en 2021. Donc, c'est tout frais. Et Thierry Ribaud, il a notamment participé au colloque « Ce qui nous arrive » les 22 et 23 septembre à Bruxelles, et il a présenté en fait sa position qui est vraiment de s'opposer à la résilience.
Ouais, et je connaissais pas cette théoricien, et dans mon texte qui est intitulé Dystopie réelle, j'emploie les mots résilience avec une certaine naïveté. Alors, je vais vous lire un petit extrait de mon texte et après on va discuter de ses significations. Suivre cet imbroglio demande énormément d'énergie et de résilience. Cependant, la population est anéantie par ces rythmes de vie infernales où l'incertitude règne. La peur domine et l'obéissance se présente comme l'unique solution pour s'en sortir. Alors, comme j'avais dit, ici j'utilise le mot résilience comme synonyme d'adaptation. Parce que dans ma langue maternelle, qui c'est le portugais brésilien, d'où je suis très influencée, ces mots est pris justement dans ce sens d'adaptation. Dans ces cas-là, dans mon texte, l'adaptation nécessaire pour surmonter les obstacles et se sortir de situations difficiles, comme a été la pandémie, le confinement. J'avoue que après avoir lu des articles de Thierry Ribaud, je vois que le mot est paradoxal. Et pour moi, il est même polémique maintenant, surtout qu'on place ces mots dans l'idéologie de la résilience. Et moi, je utilise ces mots avant de connaître la théorie de la résilience, discutée et amorcée par Thierry Ribault. Voilà. Donc, ça a été une surprise pour moi aussi de voir que ce mot, il a d'autres connotations.
J'ai fait une recherche dans le dictionnaire étymologique du mot résilience et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un mot aux multiples facettes qui a été récupéré dans plusieurs domaines aussi différents les uns que les autres. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont trouvé quelques-unes de ces récupérations dans des domaines aussi variés que, je sais pas moi, l'informatique, la physiologie? Amanda, est-ce que tu as trouvé des récupérations de ce mot différent?
Le premier sens dans les dictionnaires Le Robert, c'est la définition physique du mot résilience, qui c'est un valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal.
Oui, ah, c'est bien. Moi, j'ai trouvé celle en écologie. Est-ce que tu l'as aussi ou?
En écologie, c'est la capacité d'un écosystème ou d'un biotope, ou alors d'un groupe d'individus, à se rétablir après une perturbation extérieure. Mm-hmm. Que ce soit un incendie, la tempête ou le fait de défricher une forêt. C'est un terme résilience qui a été réutilisé aussi dans le domaine économique. C'est Ulanovitch, Görner, Bernard Lietaert, qui était le directeur de la Banque nationale belge, et Rocio Gomez ont écrit Quantifying Sustainability, Resilience, Efficiency and the Return of Information Theory. Et en fait, là, ils mettent en évidence que la résilience, c'est un peu la rencontre entre la diversité, une diversité de solutions, et des interconnexions, d'accord, des liens entre cette diversité. Aujourd'hui, on a en tête le mot permaculture. C'est vraiment ça. C'est l'idée vraiment des liens entre les êtres vivants et aussi le lien entre des différentes solutions par rapport à une agression extérieure. Et donc, c'est pour moi quelque chose de positif, en fait.
J'avais aussi les toutes premières définitions qui remontent à l'anglais du 17e siècle, où on parle de rejaillissement et de rebondissement. Donc, ça date de 1626, mais c'était surtout, comme Amanda le spécifiait tout à l'heure, spécialisé pour le nombre caractérisant la résistance au choc d'un matériau. Sinon, ce que j'ai trouvé... c'est que le mot résilience a fait son entrée dans le langage populaire dans les années 90. Mais qu'évidemment, c'est pas parce que le mot en français n'était pas dans l'usage courant que la capacité qu'a l'être humain à rebondir face à une épreuve difficile n'existait pas avant que le mot fasse son apparition. C'est là que j'ai vu que plusieurs auteurs, dont j'ai ici l'essayiste et dramaturge français Paul Claudel, après un séjour aux États-Unis, a essayé de traduire le mot résilience. C'est une façon de le faire passer dans la langue française et que d'autres avant lui et après lui aussi ont essayé, mais sans beaucoup de succès. Ça donnait plutôt dans la langue française des mots comme résistance ou résignation.
Moi, je le comprends au niveau de l'écologie plutôt comme résistance ou la capacité, comme je pense tu le disais, au départ en anglais, resilience, ça veut dire rebondissement. Mm-hmm. La capacité, après avoir encaissé un choc, de rebondir. Et c'est ce rebondissement, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est intéressant en écologie, il vient de divers côtés. L'important, c'est quand même de maintenir des liens et une diversité pour rester vivant, en fait. Vraiment ça. Alors après, c'est un mot qui a été utilisé en psychologie. Amanda, peut-être toi, tu voulais en parler?
Oui, j'ai trouvé cette définition aussi dans les niveaux psychiques dans le dictionnaire Robert, qui c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Donc, il a aussi cette idée de choc, d'un événement inattendu, exceptionnel, où la personne doit faire face, surmonter pour justement revenir à un état normal, ou voilà, c'est ça, surmonter cette difficulté là.
Geneviève, tu voulais ajouter quelque chose?
Ben en fait, ça vient du pionnier, celui qui a popularisé dans la vie de tous les jours l'utilisation du mot résilience, Boris Cyrulnik. C'est une définition que Boris Cyrulnik donne de la résilience. Il donne donc cette définition psychologique qui fait écho à ce que tu disais, Amanda, c'est-à-dire que quand on a été traumatisé, on est, selon Cyrulnik, psychiquement mort. Il dit même, on est en agonie psychique. Et si il n'y a personne autour de nous, on reste comme ça. Mais si il y a une structure affectueuse, amicale ou sociale autour de nous, on reprend donc un certain type de développement. On ne redevient peut-être pas comme avant, mais malgré les circonstances adverses, on peut rebondir. On revient à ce que tu disais, Isabelle, la capacité à rebondir. Ça fait référence à...
Oui. Et aussi au lien, parce que de ce que j'entends, c'est l'importance du lien humain, enfin le lien social, qui fait que on peut dépasser ce choc.
Dans nos sociétés capitalistes où on mise beaucoup sur le succès, sur as-tu réussi à guérir rapidement et tout, Cyrulnik, je le connais pas bien, mais semble pas aller dans cette voie-là avec son concept de résilience. C'est une définition très humaine, je trouve.
Oui. Il a vécu les rafles hein, lors de la Deuxième Guerre mondiale et donc ses parents ont été exterminés. Il avait 10 ans et donc voilà, c'est en fait au départ pour ça qu'il a développé très fort cette réflexion sur comment on reste ou on se remet debout après un tel traumatisme. Ce qui me semble important ici, c'est de se dire que c'est pas justement la résignation. C'est pas la soumission, c'est pas le fait, on ne subit pas, enfin, on subit bien sûr le choc, mais après, on se remet debout. Et donc, ce que Thierry Ribaud condamne, c'est simplement d'accepter les choses telles qu'elles sont et de ne pas entrer en résistance, se remettre debout. En fait, la résilience, c'est finalement ça, c'est à la fois de la résistance, parce qu'il faut une action physique pour se mettre debout et pouvoir continuer à avancer. Mais donc, il faut une sorte de résistance et certainement pas une soumission. On ne peut pas continuer à être écrasé si on est résilient. Ce mot-là existe aussi, donc de manière très récente, dans le domaine informatique.
Tout à fait. Je l'ai sous les yeux, vas-y.
Oui, et c'est donc la capacité d'un système à continuer à fonctionner même en cas de panne.
Tout à fait.
Et là, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Amanda, j'ai l'impression, par rapport, je sais pas moi, aux populations. Là, c'est vraiment un appauvrissement de toute la complexité qui est derrière ce terme résilience dans le domaine écologique et peut-être aussi dans le domaine physique et dans le domaine aussi de la psychologie. Ici, c'est « ah oui, il y a une panne et malgré tout, ça fonctionne ». Mais on n'a plus ce pourquoi et ce comment ça fonctionne. Et donc, en fait, c'est une façon de nier qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. La résilience dans le domaine informatique, j'ai l'impression. Et donc, c'est peut-être cette contamination de l'informatique dans nos vies qui a été accélérée par le Covid et qui fait que aussi ce mot-là est perdu de sa superbe. Alors, il y a Isa qui avait imaginé une définition un petit peu... voilà, créative et originale, qu'on va écouter.
Définition de résilience. Résilire. Voilà l'origine latine de résilience. De bondir, sauter en arrière. Comme dans résilier un contrat, ce qui est une sorte de bond en arrière. Alors que résilience, au sens moderne, impliquerait plutôt un bond en avant. Mais le sens résiduel est toujours de changer de direction. Quand on n'a plus de résidence, on résilie et on résilience. Mais dans les deux cas, on passe à autre chose. Une mousse à mémoire de forme est résiliente elle aussi. L'être humain peut être un mousse, mais n'est pas toujours résilient.
À tort et à travers.
À tort et à travers.
À tort et à travers.
À tort et à travers. À tort et à travers. À tort et à travers.
À tort et à travers.
À tort et à travers.
À tort
et à travers.
À tort et à travers.
Cette vie, blessée par le malheur.
C'était Résilience de Macadam. Alors, nous nous retrouvons à nouveau avec Isa pour parler en particulier de la définition qu'a proposée Isa dans la séquence « À tort et à travers ». Ah oui, donc ça c'est une définition que tu as inventée, ou bien, il y a une base...
La base latine, l'origine latine est correcte, est véridique. Hein. J'ai commencé par chercher ça parce que, en pensant à résilience, la proximité avec résilier un contrat m'est tout de suite venue à l'esprit, je ne sais pas pourquoi, et m'a un peu interrogée parce que je me suis dit, tiens, je ne voyais pas de point commun du tout. Résilier un contrat, bah, c'est mettre un terme à quelque chose qui avait été prévu, donc quelque part, c'est, comme je le dis, une marche arrière. Alors que la résilience, comme elle est utilisée de nos jours, plutôt dans un sens psychologique, implique quelque chose de très positif, enfin, qui pour moi n'avait vraiment aucun sens. Donc je me suis amusée là à inventer un point commun qui serait le fait de changer de direction. Et dans mes recherches, je suis tombée sur un exemple qui était en termes vraiment plus de propriété physique. Cette histoire de mousse à mémoire de forme, hein, comme les oreillers, les matelas, qui s'adaptent à la forme du corps et qui la conservent, enfin, ou reprennent, s'adaptent plutôt, mais après reprennent leur forme.
En fait, s'adapter, on peut le percevoir comme l'idée de subir.
Oui, de perdre quelque chose au passage, éventuellement.
De perdre, d'accepter ce qui nous arrive, l'oppression, on va dire, et donc de ne pas résister, de ne pas réagir dans une idée de résistance, d'esprit critique, etc.
Mais l'adaptation, alors si on remonte ça à Darwin, ce serait aussi ce qui permet à une espèce de survivre. Je ne sais pas si la résistance, au sens humain actuel, permet toujours de survivre. Donc dans ce sens-là, c'est sans doute pas de l'adaptation au sens naturaliste. Mm-hmm. C'est autre chose.
Oui. Enfin voilà, ça c'est un peu explosif. Ouais. Parce que toi, tu avais vu, alors tu avais trouvé cet article-là dans le journal des Mutualités Chrétiennes, sur Ribot, oui. Oui, et dans cet article, il y avait l'idée d'une instrumentalisation, hein, la critique de l'usage de ce...
La récupération politique.
Oui.
La communauté prime sur l'individu. Elle ne tient pas compte des drames privés que la situation entraîne. Le groupe doit sortir renforcé de l'épreuve, même si cela implique des dégâts collatéraux. Il n'y a là aucune bienveillance. A dit ce monsieur Ribot. Pour le gouvernement, il s'agit uniquement de relancer l'économie dans le déni des situations individuelles et familiales. Là, ça rejoint l'adaptation au sens darwinien, hein, la survie de l'espèce. Alors, il faudrait peut-être trouver l'équilibre et concilier les deux.
Est-ce possible? Pour moi, c'est ça la résilience. C'est à la fois accepter, dans le sens de ne pas nier justement ce qui nous arrive, ce qui nous tombe dessus comme difficulté, comme agression, donc la reconnaître, et puis réagir, donner une réponse à cette agression.
Mais je trouve que c'est pas facile de donner une réponse qui soit... correct pour tout le monde. Tout le monde n'aura pas la même réponse.
Non.
Donc à un niveau collectif, comment trouver, ça rejoint le débat sur les métiers essentiels, là, par exemple, ce qui est essentiel pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et donc on a sacrifié certains métiers, en l'occurrence, à ce qu'on considérait comme nécessaire pour la survie collective. Mais donc une réponse qui convient à tout le monde... difficile à trouver, ou alors sur certains dénominateurs très très larges, comme on veut tous survivre précisément, mais...
Oui,
Et alors, quand on voit après coup comment ça s'est passé, on se rend compte que, en termes justement de santé mentale, je veux dire, ça fait énormément de dégâts. Mmh. Donc, peut-être à refaire, la réponse qu'on a donnée de s'isoler, de créer des distances entre les personnes, je ne suis pas sûre qu'elle serait reprise aujourd'hui. Enfin, ça vaudrait la peine de la remettre en question, dans le sens de la questionner. Mm-hmm. Est-ce que, ça on ne le saura jamais, si on avait fait autrement, on aurait eu les mêmes résultats ou pas, on ne le saura pas, ça. Hein, mais...
Non, c'est en effet difficile à savoir. Moi, je me suis quand même dit souvent a posteriori, après le pire de la crise, que si on comparait les résultats en termes de décès dans les pays qui avaient eu des politiques très différentes, les résultats sont à peu près similaires, pour autant qu'on puisse comparer les chiffres qui commençaient, n'étaient pas recueillis, collectés de la même manière, mais entre la France qui était hyper répressive, elle n'a pas fait mieux en termes de nombre de morts dans tous les cas que la Suède ou les Pays-Bas qui ont eu des politiques beaucoup plus fluctuantes mais globalement beaucoup plus souples quand même. On n'a pas enfermé les gens chez eux à ne pas pouvoir sortir, donc ouais, peut-être un élément de réponse. C'est pas la peine en fait d'isoler autant les gens, ça ne sert à rien parce que quand on les relibère, évidemment ils ont besoin d'en profiter.
Ouais. Et donc là, justement, il est français, hein, là, Thierry Ribaud, et apparemment, en France, on a beaucoup utilisé ce terme de résilience pour faire accepter, en fait, des décisions qui étaient assez extrêmes, enfin très radicales en tout cas. Et donc, il a apparemment appelé la première réaction au niveau du confinement, le tout premier confinement, et le contrôle qui a été mis en place par l'armée, je pense, française, il a appelé ça « escadron de la résilience ».
Oui.
Et donc ça, c'est...
C'est vraiment un détournement.
C'est un détournement.
Oui.
Ouais. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est pour ça que, donc lui, Thierry Ribaud, il a écrit un essai contre la résilience. Et pour moi, c'est... Il ne faut pas s'opposer forcément à la résilience comme concept.
Au sens dans lequel elle a été utilisée.
Voilà, c'est ça. Et s'y opposer, c'est appauvrir alors la langue et participer de cette pensée unique ou ce politiquement correct. Même en voulant prendre le contre-pied, on y participe en disant non, surtout n'utilisez plus le terme résilience.
Oui, c'est ça. Tu ne connaissais pas Thierry Ribaud?
Je le connaissais pas, donc disons qu'il prend le contre-pied de Boris Cyrulnik, mais je connais pas très bien les deux, mais j'ai bien aimé avoir les deux visions du concept de résilience. Parce que moi, j'étais pas habituée d'entendre quelqu'un parler de résilience comme étant une mode dangereuse, ou encore une imposture. Il va jusqu'à dire que c'est l'idéologie du bonheur palliatif, que c'est du délire, qu'il faut arrêter ça. Mais je comprends, là, c'est une colère justifiée, je trouve. Quand c'est pas un coup de gueule qui fait comme ça, là, une sortie sans réflexion. C'est une analyse quand même assez poussée.
Oui, il en a fait un livre, hein, quand même.
Il en a fait un livre. Alors, à force de vouloir s'adapter, d'un coup que c'est la société qu'il faut changer, qui nous en demande trop et qui fait cette pression de vouloir toujours rebondir. Mais bon.
Ouais. Alors quand on regarde un petit peu qui il est économiste, hein, né à Cambrai en 63 et donc il est chercheur au CNRS.
Oui, il est chercheur au CNRS. C'est ça, moi c'est surtout pour toutes les questions qu'il soulevait. Et si le malheur n'enseignait rien, alors qu'on nous il faut toujours ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, là.
il a écrit ce texte contre la résilience à Fukushima et ailleurs, hein. Et donc, il part du tsunami qui a atteint les réacteurs nucléaires de Fukushima au Japon. Et puis, il a vu, en fait, à partir de là, cette notion de résilience qui était utilisée pour... traverser ce désastre, hein, au niveau environnemental, au niveau humain, enfin à tout niveau. Il dit la résilience est la nouvelle religion d'État.
Oui, tout à fait. Phrase que l'on se répète, hein, je serai résilient pour comme un mantra qui dit en se persuadant que ça va fonctionner. Et puis, il déplore qu'on exhorte les gens comme ça, comme à Fukushima, hein, de s'adapter à la situation, alors que les gouvernants n'en ont pas de remède. Donc, je sais pas, ça me faisait penser un peu à la pandémie. On changera pas notre façon de fonctionner, puis ben, il y aura toujours de plus beaux et de plus gros virus qui circuleront peut-être parce qu'on les réchauffements climatiques. On va continuer de favoriser ce genre de situation. Donc, j'étais contente d'avoir une nouvelle interprétation du mot. Puis, ben, ça m'a fait fouiller, là. D'où ça vient, le mot résilience? Depuis quand c'est entré dans le langage populaire? Puis, c'est assez récent. Ça m'a surprise. C'était seulement depuis les années 90 que ce mot est apparu en français, là, vraiment dans le langage, là, parlé. En anglais, ça existait depuis longtemps, mais...
C'est un petit peu ça l'objet de cette séquence à tort et à travers. Thierry Ribault, je l'ai découvert lors d'un colloque qui a eu lieu il y a peut-être un mois à Bruxelles et qui a été organisé par plusieurs organismes d'éducation permanente et des réseaux de centres sociaux. Ils se sont mis ensemble pour organiser un colloque qui s'appelle « Ce qui nous arrive ». Et ils ont fait venir plusieurs intervenants. Il y avait un scientifique, un biologiste qui était très intéressant, qui travaillait et qui travaille et qui parle de robustesse. Mmh. Et puis il y avait une juriste qui est enseignante aussi à l'université de Liège et qui parlait un petit peu de cette expérience Covid au niveau du droit. Et puis il y avait lui et qui effectivement s'opposait très fort au terme de la résilience. Mm-hmm. Et en réalité qui s'opposait au premier qui parlait de robustesse. Moi, ça m'a interpellée parce que le mot résilience, c'est un mot que je connais quand même depuis aussi plusieurs dizaines d'années. C'est un terme qui recouvre un concept qui est vraiment très riche et intéressant.
Oui, bien sûr.
En fait, ce que condamne Thierry Ribault, c'est l'instrumentalisation qu'on a fait de ce mot-là. Lui-même fait alors un raccourci et s'oppose à cette résilience. Il condamne en fait l'utilisation tronquée, galvaudée de ce mot. Et donc, voilà, moi j'ai un problème par rapport à ce titre « Contre la résilience ». Parce que la résilience a des éléments très, très intéressants et riches. Alors, de quand est-ce que ça date? Ça, c'est la bonne question.
Moi, ce que le fameux gros dictionnaire étymologique, là, en anglais, là, ça remonte au 17e siècle. C'était employé « resilient » en 1674. La définition qu'on en donne, c'est « rejaillissant » ou « rebondissant ». Ça fait un lien avec le latin, hein, qui c'est exactement ce que ça veut dire, c'est résiliare, je pense, ça veut dire rebondir, tout simplement. C'est là que j'ai vu que plusieurs, dont Paul Claudel, dans les années 30, a essayé, mais sans trop de succès, de trouver comme un équivalent français à ce terme de résiliency. Ils ont été plusieurs à tâtonner comme ça pour essayer d'offrir quelque chose et ça a donné des mots comme résistance ou résignation en français. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que résilience telle que la vision psychologique du mot résilience. Elle est beaucoup plus riche que juste dire résignation ou résistance, là. Donc, voilà, c'est un mot qui a énormément voyagé, comme tu disais, puis comme Ribault en avait contre l'instrumentalisation de celui-ci, on le retrouve dans tellement de domaines.
Donc, tu peux te présenter, Geneviève?
Alors, bonjour, ça me fait plaisir de faire ta connaissance, Amanda. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ton texte.
Merci.
Et ça me fait plaisir. Merci à toi. Puis, ben moi, je m'appelle Geneviève. J'ai participé à quelques formations avec Cryptalinéa depuis août dernier. Je suis une toute nouvelle quand même dans la formation, mais j'aspire à faire partie du prochain parcours du collectif d'écrit de la créativité à la diversité. Puis
ouais, c'est l'inverse, Geneviève.
C'est la créativité. À chaque fois, j'inverse ou j'y mets une touche qui a pas d'affaire là. Donc voilà. Et puis j'avais envie de participer à cette discussion avec vous, de savoir comment est-ce que le collectif des masqués en était venu à travailler sur la résilience. Donc
ouais. Super, bienvenue et
alors, tu arrives du travail, tu disais?
Oui, oui. Je suis à Lyon. Je ne sais pas si Isabelle t'avait dit. Je suis à Lyon. Et voilà, je suis étudiante en formation et communication à Lyon. Et voilà, je participe en ligne du collectif Démasqué, plus précisément.
Oui.
Mais voilà.
Ça te fait, tu es toute nouvelle à Lyon à étudier comme ça en communication ou ça fait quelques sessions que tu es là?
Non, ça fait 3 ans que je suis en France. Et j'ai commencé les études à Lyon en formation communication en 2021.
En 2021. Ah. Donc pendant la pandémie, c'est ça?
C'était... Ouais.
Et oui. Durant cette même période que tu as rédigé ton texte?
Oh, pas forcément. Mon texte a été justement en 2020. Ah, ce texte-là. D'accord. Parce que c'était le premier parcours de démasquer.
Oui, oui. Donc premier parcours, tu as participé au premier parcours, toi.
Oui. Exactement. Et j'étais quand même étudiante, mais j'ai travaillé encore. Voilà, c'était.
Oui, tu as participé aux deux parcours, hein, de démasquer.
Oui.
Collectif démasqué.
C'est ça.
Et tu parles combien de langues, Amanda?
En fait, je parle que portugais et français et je suis en train de améliorer l'anglais, mais voilà, c'est que ça.
Ah, mais quand même. Et en portugais, résilience, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est très proche de du français, mais c'est surtout adaptation. C'est à s'adapter pour, voilà, c'est dans ce sens que j'ai pris dans mon texte, et je vais expliquer que c'est cette notion en portugais qui m'influence beaucoup parce qu'au Brésil, c'est très, très utilisé, surtout pour les minorités, en fait. On dit il faut être résilient, il faut faire face aux difficultés, voilà. Surtout quand on appartient à une classe humble, aux mêmes pauvres du Brésil, ces mots résilience est très présent en fait. Il faut être résilient, c'est intéressant. Il faut s'adapter pour survivre. C'est presque une, ouais, c'est dans l'ordre de la survie.
De l'ordre de la survie.
Ouais.
Et tu disais que c'était surtout un terme qu'on employait pour les minorités ou
Oui, parce qu'en fait, les classes pauvres ont beaucoup de difficultés, c'est beaucoup d'obstacles, et donc cette idée d'être résilient, de s'adapter, de faire comme on peut, et tout en gardant l'espoir de surmonter ces difficultés.
D'accord, d'accord. C'est très intéressant. Donc, il y a question aussi de classe sociale quand même.
Ouais, pour moi, oui. Dans ce contexte que je parle, surtout les difficultés imposées par les difficultés économiques. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très politique aussi. Et je suis, il y a des moments que je suis d'accord avec Thierry Hubot parce que il a quelque chose quand même de politique, d'inculquer dans la population qu'il faut être résilient. C'est pour moi une romantisation de la souffrance. C'est en fait l'idée de la méritocratie. Donc il a beaucoup de choses derrière tout ça, voilà.
Ça fait vraiment le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. juste avant que tu arrives, Amanda, là, il était question de Thierry Ribault. Puis,
oui. Bon,
je ne connaissais pas, tu le connais depuis longtemps, Thierry Ribault, toi, Amanda?
Non, j'ai connu à travers de Isabelle qui nous a donné la référence. J'ai lu un petit résumé sur son livre. Je lis aussi l'article qu'Isabelle Lynx nous a envoyé d'une assurance qui a fait un petit article dans une gazette, quelque chose comme ça.
Ok.
Donc voilà, j'ai connu cette théorie.
Je pense bien me procurer son ouvrage juste pour me préparer des arguments, pour pouvoir étoffer ma vision de ce que c'est la résilience. Tu vois, moi, avant de te parler puis de lire un peu ce qu'il écrit, j'associais pas nécessairement ce mot-là à une classe sociale. Je pensais que c'était répandu à tous et à toutes. Tu vois, ouais, j'ai beaucoup à apprendre de cette émission. Quand vous êtes prête,
ok,
je suis prête.
Oui, Thierry Hubot, il critique beaucoup, surtout l'appropriation politique et que les gouvernements font du mot résilience comme un transfert de responsabilité à la population de certaines postures qui devaient être prises par les gouvernements. Sauf que justement, comme vous avez dit, comme tu as dit Isabelle, le mot résilience, on peut pas condamner complètement parce que une population, elle peut être résiliente justement pour lutter contre un gouvernement comme ça. Donc, je pense qu'il faut justement faire ce qu'on est en train de faire, une analyse chirurgicale du mot pour justement voir les aspects bien et voilà.
Il est juste... Oui, et vraiment ne pas mettre à la poubelle un concept qui justement est très riche en termes de résistance. Et qui, comme tu le soulignes, et comme le souligne aussi Thierry Ribault certainement, qui est détourné par les politiques, hein, mais pas forcément que par les politiques. Pendant le Covid, pendant la pandémie, vraiment les médias ont beaucoup utilisé le terme résilience. Bon, on a fait beaucoup référence à Cyrulnik, ça c'est vrai, mais voilà, du coup. Il y a eu une banalisation de ce mot qui n'est plus utilisé comme il devrait l'être dans sa richesse.
c'était Renaud les mots.
Si on revient à Parole libérée déconfinée du collectif Démasqué, comment vous est venue l'idée de travailler sur...
L'idée de travailler ce mot?
Oui.
Oui, parce que ce mot est présent dans mon texte. Mon texte a été
au premier blaireau
lors de la présentation
ça vous colle de notre recueil. À la peau.
Et,
putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau. Ça vous libère de tous les mots. Ça vous libère de tous les mots. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges. Que des angoisses.
Oui, alors c'est aussi venu de ce colloque, hein, ce qui nous arrive, où effectivement,
chanson, moi je ne connaissais Bruno pas les ouvre des mondes plus beaux,
et où il condamnait, hein, il fait une condamnation de ce terme-là,
qui vous éloigne des troupeaux.
Ben, voilà, comme on l'utilise, comme
il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots, quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo.
On en parle également, hein,
c'est un don du ciel, une grâce, qui rend la vie moins dégueulasse,
voilà,
qui vous assigne une place
ne pas en rester là et de dire que
angoisses.
Quand on condamne un mot de notre langue française, si riche et si belle, c'est aussi un risque de réduire la pensée de se confiner à une norme. Parce que si on assimile l'idée que le mot résilience doit être banni du vocabulaire, ben ça veut dire suivre une certaine norme. Et c'est justement, je pense, l'opposé de ce que Thierry Ribaud notamment souhaite. Donc voilà, je crois que c'est pour ça aussi que je trouvais que c'était intéressant de s'arrêter à d'autres mots aussi qui sont un peu pointés du doigt aujourd'hui parce qu'ils ont été galvaudés. Alors je pense à bienveillance par exemple, qui pour l'instant est un petit peu suspect, participation citoyenne, changement de paradigme. Ce sont des mots forts, ce sont des mots qui sont vecteurs de changement. Mais voilà, peut-être parce qu'ils sont trop utilisés et mis à n'importe quelle sauce, ils se vident et c'est un peu pour les re-remplir qu'on a créé cette séquence à tort et à travers. Tu posais la question d'où vient le thème de Paroles libérées déconfinées, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais, ça c'était vraiment suite au confinement. Et donc, on a créé le collectif Démasqué avec un premier recueil, mars 2020. Et puis, on a poursuivi avec le deuxième recueil. Et c'est vrai que c'est intéressant qu'on l'ait intitulé « Paroles libérées, déconfinées ». Et en fait, avec cette séquence à tort et à travers, c'est aussi une façon de libérer la parole et de la déconfiner d'un champ restrictif. Ouais, c'est vraiment intéressant.
Oui, c'est vraiment intéressant. Et Amanda, aussi que tu aies écrit ce texte-là et qui figure dans le collectif Démasqué, puisque, pour revenir encore une fois à Thierry Ribaud, il dit dans son ouvrage que le mot « résilience » avance masqué, comme celui de bienveillance. Que ça figure, que ton beau texte figure donc dans les collectifs démasqués de Cindy. Une manière d'essayer de voir le revers du mot et d'en examiner toutes les facettes.
On pourrait rebaptiser la séquence comme par exemple les mots démasqués.
Ouais. Et je pense que nous vivons dans une société très complexe et immergée dans des discours ambigus qu'on va être de plus en plus amenés à faire des discussions pour approprier et pour réapproprier non seulement des mots, mais aussi des symboles. Et je donne un exemple. Un exemple personnel, c'est ce qui se passe au Brésil. Nous sommes en train de essayer de réapproprier le drapeau brésilien pour redevenir symbole des Brésiliens et pas de l'extrême droite brésilienne. Donc, c'est un exercice d'appropriation et de réappropriation. Et je pense que ça va être de plus en plus constant, ça. Voilà.
Très intéressant, ça. À l'idée de se réapproprier le mot, de lui donner de l'épaisseur.
Oui, voilà.
Oui, et ce que tu dis, c'est de nouveau un homme politique ici qui détourne un symbole fort pour l'ensemble du pays et des citoyens du Brésil en réutilisant les couleurs du drapeau brésilien comme support pour son discours d'extrême droite.
Ouais. Et en France aussi, le drapeau est quand même très utilisé par l'extrême droite pour des groupes un peu nationalistes et radicalistes comme voilà l'Action française, la cocarde, donc ils ont le drapeau français comme leur symbole.
Donc,
ça devient un peu difficile en fait de faire la distinction et voilà. C'est compliqué et ça nécessite justement de faire ce genre d'exercice-là, avec les mots, avec les symboles, avec les concepts qui ont été développés dans les cadres de causes, des militances, et que parfois c'est détourné, voilà, par des personnes qui ne représentent pas la cause, voilà, c'est compliqué, je trouve.
C'est vrai, les symboles, les mots, ce sont des concepts, en fait, et les laisser se détourner par la population qui les utilise un petit peu à tort et à travers, ou des hommes et des femmes politiques, c'est perdre un petit peu de notre démocratie, en fait, de notre liberté d'expression aussi, de notre richesse d'expression. Et j'avais envie, pour l'émission, de lire aussi peut-être un extrait de 1984 de George Orwell qui a imaginé déjà dans le système de dictature, de dystopie qu'il présente, une forte attention sur ce langage et le langage qui est un nouveau langage qui est créé.
Le novlangue. Oui.
Le novlangue. Hein. Mm-hmm. Et donc, je crois que là aussi, on peut se dire, il y avait la réflexion aussi. Par rapport à cette pandémie, avant la pandémie, on opposait entre guillemets le réel et le virtuel. Et d'ailleurs, on avait fait le collectif des Allumés de la Plume, on avait créé un recueil de textes qui s'appelle Virtu réel sur la question justement du lien ou du rapport ou de l'opposition entre virtuel et réel. Et maintenant, ça n'existe plus. On est dans le distanciel et dans le présentiel. Mais donc, il y a entre guillemets cette critique du fait que le virtuel n'est pas aussi réel que le réel, qui disparaît, qui est effacé par cette utilisation de distanciel et présentiel. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, je suis en train de réfléchir. C'est très complexe pour moi. Mais c'est vrai que c'est tellement mélangé aujourd'hui qu'on a plus cette, vraiment quelque chose qui fait la barrière qui nous met en disant... parce que justement, c'est, on est souvent dans cette mixité, soit dans le travail, soit à l'université, même dans relations personnelles. Par exemple, je suis en France, toute ma famille est au Brésil. Donc, j'ai vécu des choses réelles, mais à travers des outils et en distanciel. Donc,
Ouais. C'est vrai, on peut, et puis bon, voilà, on est en train de faire cette séquence en virtuel aussi, ou alors en distanciel, mais c'est vrai que ce sont de vrais échanges qu'on tient, de toutes les trolls.
Ouais. Et alors, comme j'ai bien aimé l'idée de cette émission, j'ai déjà quelques d'autres mots pour peut-être d'autres à tort et à travers.
Oui, super, lesquels?
Les mots sobriété, je ne sais pas si en Belgique est très utilisé, mais en France est très utilisé. D'autres mots moins politiques, mais aussi politiques, mais le mot empathie, qui je ne sais pas si... Mais c'est un mot qui pour moi... un peu ambigu, il y a des choses à discuter. Qu'est-ce que c'est l'empathie?
Ah oui, sur l'empathie, il y a tellement de choses intéressantes à dire. Mais sur la sobriété aussi, là, je vois ça de plus en plus, même que ça se dit avec un col roulé. Mais pour l'empathie, moi, je suis fascinée par les derniers discours que j'entends sur ce sujet. Certaines personnes, surtout issus des minorités, revendiquent leurs sentiments et vont jusqu'à dire, quand tu leur dis « je te comprends », que c'est condescendant. Donc, il y a une impossibilité d'empathie si tu viens pas du même milieu. Ou c'est la première fois que, moi, j'entendais ça, là, que tu c'est impossible d'être empathique dans certaines situations. Donc, ça casse le tout dialogue, en fait. Alors, oui, je m'intéresse beaucoup à cette question. J'aime croire que c'est possible, sinon...
Il y a comme ça des mots aussi à la mode. À la mode qui en remplacent d'autres. Et par exemple, chez nous, on parle beaucoup dans le milieu associatif, on parle beaucoup de récits. Dans le milieu intellectuel, dans le milieu associatif, il nous faut des nouveaux récits.
Des récits ou le narratif, entends-tu?
Ou le narratif.
Le narratif. Donne-moi ton narratif dans tous les domaines, alors que c'est un thème en littérature, tu sais, ça m'a pris des années à comprendre c'est quoi ta récit. J'entends tout le monde, le postier m'a dit le narratif. Le narratif est partout. Oui.
Ah oui,
j'ai... Ouais. Ça serait vraiment intéressant.
On me dira non, ce sera comme hier et comme demain peut-être.
Toujours des raisons et des commentaires, ce que je devrais être. Je me fous des barrières, je vais gagner à ma manière.
J'allumerai en moi ce qui survivra au-delà.
Tu perds ton temps à essayer de me briser la voix.
va chemin, hein.
Qu'importe la distance,
je ne donnerai jamais ma chance.
Je trouverai la lumière au cœur de la gare. Je ne pourrai me taire.
Personne ne pourra m'arrêter. C'est plus fort que moi. Et super tentant à essayer de me briser la voix.
Ça déraille une bataille, mais je reviens toujours à bon port.
Qu'on y croit, qu'on n'aime ou pas,
personne ne pourra changer ma voix, mon identité.
J'irai
m'arrêter.
Non!
Personne ne pourra m'arrêter.
C'est plus fort que moi.
Tu perds ton temps à essayer de me briser la voix.
Qu'on y croit, qu'on aime ou pas.
Personne ne pourra m'arrêter.
C'est plus fort.
Je pense que comme j'ai cette expérience du Brésil et de la France, et je fais souvent cet exercice de comparaison, je pense que le pays, que en France et au Brésil, on a une appréhension du mot résilience un peu différente. Donc voilà, c'est aussi par rapport à la culture. Non seulement le contexte et les metteurs, par exemple, si c'est un politique, si c'est un militant, mais aussi culturellement, au niveau d'un pays, comment certaines populations se relationnent et, ou emploient ces mots. Voilà.
Mmh. Et donc ce mot, il est utilisé au Brésil par des populations pauvres, c'est ça?
Alors, résilience, d'abord, c'est un mot assez érudit, sauf que c'est très utilisé par par exemple, à l'université, par des étudiants issus des familles pauvres, humbles, qui ont fait un parcours résilient dans le sens que ils ont surmonté toutes les difficultés et ils sont arrivés au niveau universitaire. Donc, ces mots-là leur représentent aussi dans leur parcours. Ça me représente aussi dans mon parcours, dans cette sens-là. C'est-à-dire, c'est, cette idée, justement, de pun, je fais une comparaison, un état au niveau de organisation sociétale pour certaines populations est en panne, en fait. Elles fonctionnent pas, les aides sociales, tout ça. Et donc, les personnes, elles font, presque une société parallèle. Elle crée des outils pour survivre. Donc voilà. Et dans ce contexte-là, on peut dire que on est en train de devenir résilient et que la résilience nous permet de survivre. Voilà.
Mm-hmm.
Donc c'est assez complexe tout ça.
Je sais pas si c'est comme ça au Brésil, en France, en Belgique, mais au Canada. C'est un terme assez généralisé. C'est un symbole de performance. Tout le monde doit être résilient pour réussir dans la vie. Et si tu ne réussis pas à l'être, ben c'est toi qui as un problème ou c'est toi qui manque parce que c'est un symbole de réussite. C'est un mot qui se retrouve dans toutes les conversations utilisées dans tous les domaines. Éducation ou pas éducation, je l'ai entendu un peu dans toutes les strates de la société. C'était pour ça tout à l'heure, je disais ma surprise que c'était peut-être plus dans certains endroits comme au Brésil, par exemple, tu parlais de classe sociale où c'était utilisé par des gens peut-être de communautés plus de la minorité, mais c'est ça. On entend beaucoup chez nous le stress de performance pour guérir, revenir le plus vite possible, offrir le plus de le plus de soi-même dans tout. Donc voilà, c'est un concept presque économique en fait.
Mais Geneviève, il est utilisé depuis combien de temps au Canada?
Pendant la pandémie, sur toutes les tribunes, des radios qu'on appelle chez nous plus populaires jusqu'au plus... là, j'en ai vraiment... j'en étais très consciente, mais si on remonte dans le temps, je dirais depuis une dizaine d'années. Depuis 2010, peut-être.
C'est ça. Quand même depuis 2010, oui.
Depuis 2010.
Oui, chez nous, je dirais, enfin, quand je dis chez nous, c'est la France, la Belgique. Il a été popularisé effectivement par Boris Cyrulnik depuis quand même aussi peut-être une dizaine d'années, mais c'est resté quand même dans un milieu plutôt intellectuel. Et aujourd'hui, effectivement, il a été très très fort. Utilisé, galvaudé à l'occasion du confinement et encore aujourd'hui. Et en réalité, quand si je dois reparler de cette analyse que des économistes effectivement ont réalisé de la durabilité en fait, hein, ils ont établi une courbe de la durabilité. Donc ils ont mis en tension l'idée d'efficacité, efficacité qui est voilà très linéaire et qui fonctionne avec une logique de hiérarchie, et à l'opposé il y a la résilience qui elle est horizontale, qui se base sur, comme je disais tout à l'heure, une diversité et des interconnexions, donc des liens entre cette diversité. Et l'équilibre, la durabilité, se retrouve quand on est à peu près à mi-parcours entre cette extrême diversité et interconnexion et cette efficacité. Et donc, c'est l'équilibre, mais eux ne parlent pas du tout de performance, parce que performance, moi, ça me fait penser à justement l'extrême un des extrêmes de ce système-là, de cette courbe, qui est l'efficacité. Et donc, on est effectivement carrément à une sorte de situation, si c'est ça que ça recouvre, le mot résilience au Canada, c'est en fait un effacement de la réalité qui est désignée par ce mot au départ. Enfin, et donc, c'est fort, c'est violent, effectivement, c'est violent. Peut-être qu'il est aussi beaucoup utilisé au Canada par l'influence de l'anglais.
Peut-être aussi, oui, c'est ça, oui, sûrement. J'avais pas pensé à ça.
Mais... Ça me fait penser aussi à la logique de entrepreneuriat, en fait, justement dans cet univers de business, parce que en fait, qu'elle soit pour le bien ou pour le mal, la résilience est là dans une notion que tout on doit trouver les solutions. Nous-mêmes, on va trouver les solutions pour faire face à quelque chose. Et donc, il a dans cette logique de la méritocratie, de l'entrepreneuriat, être patron de soi-même, et son développement Et sa réussite dépend que de toi. Voilà. Il y a cette sens pour moi aussi.
Comme tu disais tout à l'heure, Geneviève, hein, un aspect de culpabilité, culpabilisation, si on ne s'en sort pas, parce que tu n'es pas assez résilient. Et donc, c'est horrible, en fait, parce que on réduit aussi ce mot, enfin, non seulement on l'efface, mais on le réduit à un niveau individuel. Mm-hmm. Comme c'est le cas, c'est vrai aussi en psychologie, alors qu'il a aussi une dimension, comme on disait tout à l'heure, d'écosystème, donc vraiment lié à l'environnement, donc quelque chose de beaucoup plus global. Et quand je dis environnement, ça peut être l'environnement humain ou l'environnement de la nature, quoi.
Se nourrir local et sauvage fait partie de la résilience. Profiter de tout ce qui pousse en abondance et spontanément autour de nous.
Oui, oui.
Et sans respectant, évidemment, voilà, ses ressources.
J'allais dire ça, sans épuiser.
Oui.
Les ressources, hein, on dit par exemple, ça a été la saison des champignons, de pas tout cueillir, quoi.
Ouais.
Sinon, il y en a.
Les champignons, c'est le mycélium, hein, qui fait.
Ouais.
On mange que le fruit, hein,
ouais,
en quelque sorte. Donc,
enfin, j'ai entendu ce message, en tout cas, de pas tout prendre.
Parce qu'on a tendance à oublier qu'on n'est pas les seuls à s'en nourrir aussi. Dans ce cas-là, c'est pas que ça met en péril la survie du champignon en question.
Enfin, ouais.
Juste qu'on prélève.
C'est les autres espèces. Ouais.
Les autres vivants.
Ouais. Ah oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Oui, il y a cette diversité-là qui est, qu'il est important de garder. D'ailleurs, le terme de biodiversité, j'avais exploré ça avec le collectif des Chacos de Nuit, à Gredosso, un collectif d'enfants. Ils avaient travaillé sur le monde marin. Et donc, on avait vu que le terme de biodiversité, il est né dans les années 80. Donc, assez tard, en fait. Et donc, biodiversité, écosystème, c'est vraiment toutes ces idées de prendre conscience que la durabilité d'une espèce dépend de la richesse de son environnement, en fait, de la diversité de son environnement.
Enfin, voilà. Mais donc, on a remis un peu les points sur les i, on peut dire.
Oui, oui. Merci. C'est un exercice sémiologique que je trouve très intéressant et qu'on doit faire, et si possible d'élargir, parce que les mots sont très, c'est une outil, et de plus en plus je vois que il a deux langues ou plusieurs langues en parallèle. Le politique utilise le mot avec un sens et la population parfois ne décode pas forcément, ne saisit. Je veux pas dire que la population elle est passive, qu'elle comprend rien, c'est pas ça. Mais c'est que il a une telle articulation, une autre conception du mot derrière, que parfois on saisit pas tout ce que ce mot veut dire.
Voilà. Donc, et prendre le temps de s'y arrêter, ça vaut la peine. Alors, il y a le politique, il y a la population, et puis il y a le poétique.
Ouais.
Et donc, on peut peut-être laisser le mot de la fin à...
Au poétique. C'est une phrase d'Albert Camus, poétique sur la résilience. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. C'est tout. Donc, au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible.
Merci.
Merci.
Camus, c'est aussi lui qui a dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. »
C'est tiré de l'été.
Voilà, ah ben voilà, vive l'été au cœur de l'hiver. Vive le Brésil au cœur du Canada. Ben, en tout cas, merci beaucoup à toutes.
Y a les chiffres, les lettres, le yin, le yang, les livres, les théories de Big, de Bang, la peur, l'autre, elle, lui, nous. Y a les prévisions de gel à la mi-août. Y a le paradis, son contraire. Ceux qui respirent et ceux qui pompent l'air. Y a les oui, les non, les pfff, les un, je, bon, les ch. Y a les rêves de nos parents. Y a tout ce que l'on sait, puis tout ce qui nous arrange. Y a la tête, le cœur, le ventre. Mais y'a aussi ce que l'on entre les jambes, y a ce qu'on t'a dit qu'il fallait mieux être, ce que tu peux, ce que tu veux, tous les peut-être. Il y a ces légendes qui se racontent, et celles qui se taisent, mais les héros silencieux aussi, ça compte. Y'a la conquête de l'espace, y'a cette terre avec vue sur l'infini. Il y a les maîtres et les esclaves, et les chaînes devenues invisibles. Il y a les philosophes en papier qui sur le vent fondent des théorèmes, d'autres qui agissent, luttent pour ce en quoi ils croient. C'est nouveau Don Quichotte qui se tape avec des éoliennes. Il y a les excès de pitié, l'expertise dans les extrêmes tristesses. Il y a les guerres et les bêtes serviles pour qu'ils s'exterminent et n'est qu'un exercice. Il y a les verres à moitié vides et les coupes trop pleines. Celles qui se vident mais tous au terre. Ces bouteilles à la dérive qui goûtent l'eau de mer. Et ces êtres libres qui touchent au ciel. Il y a ces gens mis en lumière, mais il y a aussi des ombres qui brillent. Il y a des silences funèbres, mais il y a aussi des silences qui crient. Il y a ces rois aux couronnes d'épines, il y a ceux aux couronnes diamantées. Mais vu comment le diable se déguise, à toi de me dire, à ton avis, lequel des deux finira l'âme en paix. Il y a le temps qui passe, puis qui ralentit. Les écrans qui tyrannisent les cœurs et les cerveaux mal remplis. Certes, il y a le droit de s'enfuir et c'est ce que la plupart font. Ils se cachent derrière des semblants d'occupation. Ceux qui s'enrichissent à force y croient pouvoir tout acheter. Rêve, cœur, l'âme, sœur et même leur foutu lâcheté. Il y a le bien, le mal, le saint, le gras, le faux, le vrai, le digne d'être célébré. Les grains de sable qui enrayent cette machine à décérébrer. Il y a les faux départs, les soi-disant arrivés. Il y a les lignes droites et il y a les prêts, boum, partez. Il y a la potée de l'art, les narines enfarinées. Il y a les petites frappes et il y a les vrais cramés. Il y a les orphelins qu'on abandonne nous sans faire, mais il y a les prénoms qu'on donne aux cyclones et aux tempêtes. Il y a le futile, il y a les tonnes d'encre, il y a le savoir utile, il y a le conditionnement. Toi, toi, hein, toi, toi. Il y a le tic. Le tac, les années filent, le soleil qui se lèvera bientôt à l'ouest, paraît-il. Il y a la succession des prophètes, il y a ceux qui cherchent les signes et ceux qui attendent le coup de baguette magique de la fée Clochette. Il y a le règne du rien, il y a les tours jumelles, il y a les êtres humains et les ressources humaines. Il y a les faits et ça personne ne peut les nier, il y a les révolutionnaires et il y a les maîtres quenelliers. Il y a les pions, les reines, les rois, les fous. Les mondes, les cercles, les droites, les courbes, les monstres, les elles, les moi, les nous. Mais toi, toi, je te vois pas. T'es où?